Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Durant l'été, la guérilla kurde du PKK a infligé un camouflet au service secret turc. Grâce à un agent infiltré et en faisant croire en la possibilité d'arrêter son chef dans la région de Souleymaniye, au Kurdistan irakien, le PKK s'est emparé du chef adjoint des services turcs et du responsable du dossier kurde au sein de l'organisation. Un coup d'éclat qui renforce l'aura du PKK, dont la feuille de route politique est plutôt originale dans la région, le combat contre l'obscurantisme, un féminisme assumé et la contestation du libéralisme économique au profit d'une écologie plus radicale. À contre-courant de ses homologues irakiens, le PKK est autonomiste et favorable à une autogouvernance des municipalités sur les territoires qu'il administre. À suivre dans cette émission, la revue de presse Regard croisé sur Israël et le monde arabe avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Olivier Grosjean.
Bonjour.
Maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chercheur au Centre européen de sociologie et de sciences politiques, vous publiez La révolution kurde aux éditions La Découverte. Alors le référendum sur l'autodétermination du Kurdistan irakien, c'était le 25 septembre dernier. A-t-il un lien avec la révolution que vous évoquez dans le titre de votre livre ?
Oui, il y a un lien parce que je crois que à la fois les Kurdes d'Irak et les Kurdes de Syrie sont engagés en fait dans une logique de l'après-État islamique. Et donc dans les deux cas, puisqu'il y a eu aussi des élections locales au Rojava une semaine avant le référendum au Kurdistan irakien, et dans les deux cas donc on est dans une volonté des Kurdes de ne pas être oubliés par la communauté internationale, de montrer que la question kurde n'est pas réglée, même si l'État islamique est bientôt éradiqué.
Néanmoins, votre livre est, lui, centré sur le PKK en Turquie. En quoi cette organisation est-elle différente de ses homologues, notamment en Irak ?
Alors aujourd'hui, on peut dire le champ politique kurde à l'échelle régionale est dominé par deux partis. Le PDK, le parti démocrate du Kurdistan de Massoud Barzani, et le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan d'Abdullah Öcalan, alors qui n'est plus le chef de l'organisation puisqu'il est en prison depuis 1999,
depuis 20 ans,
voilà, mais qui reste le leader un petit peu du mouvement. Ces deux partis sont en forte rivalité et la plupart des Kurdes sont obligés de se positionner aussi autour de ces deux. C'est cette rivalité qui structure un petit peu les dynamiques aujourd'hui au Kurdistan.
Et les YPG en Syrie sont plutôt de quelle tendance ? PKK ou PDK ?
Les YPG sont dans la tendance pro-PKK.
Parlons de la ligne du PKK justement. Les fondements du PKK et des YPG, c'est le marxisme-léninisme. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Oui, au départ, le PKK qui a été créé en 1978 est un parti marxiste-léniniste. Marxiste-léniniste, et on pourrait presque dire stalinien aussi dans une certaine mesure. Mais son idéologie évolue progressivement dans les années 80, dans les années 90. Alors le culte du chef, l'apoïsme du surnom d'Abdullah Öcalan, Apo, qui veut dire oncle en kurde, et qui place justement le leader au centre de la lutte et puis aussi de l'idéologie. Donc là, il y a une évolution, il y a une théorie de l'homme nouveau qui se met en place aussi à partir du milieu des années 80 et qui vise en fait à la fois l'assujettissement des militants, mais aussi leur investissement total dans la lutte. Et puis, une sorte d'érosion du discours marxiste-léniniste classique au profit d'éléments comme l'émancipation de soi, la réalisation de soi, etc., etc. Donc ça, progressivement, ça va aboutir aux années 2000 à un nouveau discours du PKK autour de la question du communalisme libertaire, enfin alors, au sein du PKK c'est le confédéralisme démocratique, mais qui est plus proche d'une approche post-marxiste en fait, hein, comme celle de Murray Bookchin aux États-Unis, qui est un anarchiste américain, théoricien à la fois de l'écologie sociale et aussi du municipalisme, hein, cette idée que l'autonomie peut être fondée sur le local, sur les villes, et n'est plus forcément territorial, octroyé par un pouvoir d'en haut.
Est-ce que les populations locales au Kurdistan turc, mais aussi en Syrie, adhèrent à cette évolution du PKK et des YPG ?
Alors ça, c'est assez compliqué de le dire, c'est assez difficile. Vous avez effectivement une partie de la population qui adhère fortement, parce que le PKK a chassé l'État islamique, tout d'abord, et donc on est mieux sous le régime PKK que sous le régime État islamique. Y a une partie qui adhère idéologiquement, parce que ils pensent que c'est une bonne chose, une bonne idée. Il y en a d'autres qui sont au départ plutôt pro-PDK, justement, hein, en Syrie aussi, et qui, eux, remarquent bien que le pluralisme politique n'est pas vraiment là. Alors, on parle souvent du fait que au Rojava, les minorités ethniques, religieuses sont bien représentées dans les conseils locaux, justement, mais les organisations comme le NKS ou d'autres partis proches plutôt du PDK sont souvent intimidés, leurs militants ont pu être battus, ou donc il y a des gens qui adhèrent, il y en a d'autres qui sont un petit peu résignés aussi à cette domination du PKK.
Dans le sous-titre de votre livre, vous évoquez la fabrique d'une utopie. Quelle est cette utopie ?
À l'origine, en fait, l'utopie, c'est bien l'indépendance du Kurdistan. Puisque au début des années 80, quand le PKK commence sa lutte, il est marxiste-léniniste, mais il est aussi nationaliste. Il défend les droits des Kurdes et il veut créer un grand Kurdistan. De fait, dès le début des années 90, le PKK n'est plus indépendantiste. Il cherche juste une autonomie territoriale. Et comme je disais, au début des années 2000, l'objectif n'est plus du tout une autonomie territorialisée, mais plus l'idée de construire cette autonomie soi-même. Et c'est là que qu'on rejoint les projets utopiques ou utopistes. C'est l'idée que on va se passer de l'État en le contournant au quotidien. Par exemple, on va créer des institutions de formation alternatives. On va créer un système de production économique alternatif en se passant des circuits traditionnels. On va essayer de rendre la justice aussi sans passer par la justice turque en Turquie. Et donc tout ça fait que on reprend en main notre destin sans faire de demande à l'État. Là, on est dans quelque chose qui est effectivement utopiste.
Est-ce qu'on peut parler de confédéralisme, un peu comme le modèle par exemple suisse, où il y a un gouvernement fédéral qui serait par exemple à Ankara pour la Turquie, et avec des îlots très 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 loin du centre et presque indépendants?
Alors en fait, dans le vocabulaire du PKK, il y a d'abord l'autonomie démocratique. Ça, c'est ce qu'on construit au niveau local. Mais l'autonomie, donc au niveau des villes par exemple, ou des villages, etc., des quartiers, pourquoi pas. Le confédéralisme démocratique, c'est un peu la réunion de toutes ces villes, de tous ces villages, de toutes ces populations. Et ça peut se faire en fait au-delà des frontières. Parce que par exemple, ça aurait pu avoir lieu en Turquie et en Syrie également, au Kurdistan de Turquie, au Kurdistan de Syrie. Et ça pourrait même, dans l'esprit du PKK, avoir lieu en Turquie, même dans les zones à majorité turque où il n'y a pas de Kurdes. Donc l'idée, c'est en fait de se passer se jouer des frontières en fait, en quelque sorte. Donc on n'est pas du tout dans un schéma qui pourrait être le confédéralisme suisse avec, une administration des frontières reconnues, un État. L'idée, c'est de ne pas construire d'État en fait.
D'où la position du PKK vis-à-vis du référendum au Kurdistan irakien. Finalement, ils ne l'ont pas combattu, ce référendum.
Ils ne l'ont pas combattu.
Et ils ne le soutiennent pas particulièrement.
Oui, tout à fait. Ils ne le soutiennent pas parce que pour eux, en fait, ça, c'est de l'ancienne politique, du réchauffé. C'est cette idée d'indépendance que le PKK a abandonnée déjà il y a plusieurs années.
Alors, vous écrivez dans votre livre que le PKK est passé d'un gouvernement des militants à un gouvernement des populations. Que voulez-vous dire par là, précisément?
Oui, alors, en fait, au départ, c'est un parti politique et un parti politique, ça ne gouverne pas, surtout que le PKK n'a jamais réellement gouverné ou été au pouvoir. Donc, au départ, il y a un certain nombre de règles qui se mettent en place pour contrôler, former les militants, et progressivement, le PKK va avoir aussi à gérer des populations. Alors, parfois, il le fait d'une manière qu'on pourrait appeler la co-gouvernementalité. En Europe, par exemple, il va essayer d'orienter la diaspora sans vraiment pouvoir se substituer aux États français, européens, italiens, britanniques, etc. Donc, il oriente la population. Mais par contre, dans certaines zones, on pourrait presque parler de souveraineté. C'est par exemple le cas du camp de réfugiés kurdes de Marmour, au Kurdistan irakien, que le PKK contrôle en fait depuis le début des années 90. Et donc là, avec l'ONU, avec le gouvernement central irakien, avec le gouvernement régional kurde, il a tenté, si vous voulez, de construire un modèle particulier et de gestion et de gouvernement des populations. On a d'autres exemples, au Sinjar, c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. Et puis, évidemment, au Rojava, sans oublier d'ailleurs le camp de Lavrion aussi en Grèce, qui est également contrôlé par le PKK, mais dans toutes ces zones, et au Rojava également, eh bien, c'est le PKK qui contrôle et qui gouverne directement les populations. Du coup, c'est pour ça que je parle aussi d'un progressif passage du gouvernement des militants à un gouvernement des populations.
Alors, un gouvernement, ça veut dire que l'on gouverne par définition, mais avec quel objectif sur le plan économique, sur le plan social?
Alors, l'objectif sur le papier, c'est évidemment donc de construire un modèle alternatif, écologique, très solidaire, social. L'idée, c'est de faire une économie qui soit au service de l'homme, qui ne soit pas une économie productiviste. L'idée, c'est aussi de mettre en avant l'égalité homme-femme.
Quelque chose qui n'est pas partagé avec le Kurdistan irakien, par exemple.
Alors oui, c'est vrai. Alors même si pour les femmes, la situation est pas encore si mauvaise au Kurdistan irakien par rapport à d'autres régions, mais c'est vrai que au Rojava, dans les zones gouvernées par le PKK, les femmes sont bien plus mises en avant et bien plus protégées, c'est sûr. Donc voilà, on a un certain nombre de politiques emblématiques, qu'elles concernent donc les relations hommes-femmes, la question des minorités, la question économique, en fait, hein, sur le mode de production, tous ces domaines-là, hein, qui sont des politiques que le PKK entend mettre en œuvre, un peu sur le modèle des États, on pourrait dire, hein, comment un État mène une politique publique. Donc voilà, c'est ça qu'il est en train d'expérimenter, en fait, depuis 2012 au Rojava, mais ce sont des politiques qui ont aussi une longue histoire au sein du mouvement, c'est ce que j'explique un petit peu dans le livre, la manière dont, par exemple, la question écologique n'a pas émergé uniquement au début des années 2000, mais la conséquence, finalement, de la contre-insurrection turque dans les années 90, où on pouvait brûler des forêts pour éviter que la guérilla s'y réfugie, faire des barrages pour que la guérilla ne puisse plus passer par telle ou telle vallée, et donc tout ça a eu des conséquences en termes écologiques. Ce sont donc les prémices des politiques qui sont aujourd'hui menées.
Et les populations kurdes adhèrent à ce mouvement ?
C'est compliqué. Au Rojava, il y a peu de moyens. Alors, dans le livre, j'explique un petit peu comment, voilà, on est d'abord sur un massage des ordures, inciter la population à pas jeter les ordures dans le fleuve, etc., etc. Donc, on est plutôt sur de la sensibilisation. En Turquie, on était sans doute allé un petit peu plus loin parce qu'il y avait des coopérations qui pouvaient exister aussi avec des Turcs, avec de nombreuses ONG. On n'était pas dans la même situation de guerre avant 2015, ce qui fait que les choses avançaient peut-être assez rapidement.
Et aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, en Turquie, depuis 2015, tout a été laminé. Donc toutes les structures parallèles mises en place par le PKK sont détruites.
Un dernier mot, dans le dernier chapitre du livre, vous observez que l'on est passé d'une question kurde internationale à une question kurde régionale. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
En fait, on est passé, oui, d'une sorte de question kurde au départ nationale, c'est-à-dire dans les quatre États où vivent des Kurdes. On est passé à une internationalisation de cette question, notamment dans les années 90, avec l'Union européenne qui était très très présente. Hein. Les perspectives d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne ont permis cette internationalisation. Et aujourd'hui, ce qui est le plus frappant, c'est évidemment les dynamiques de régionalisation. Qu'est-ce que j'appelle les dynamiques de régionalisation ? C'est le fait que ce qui se passe à un endroit du Kurdistan a des répercussions importantes dans un autre endroit. On peut pas vraiment le prévoir, mais on sait par exemple que ce qui s'est passé en Syrie était extrêmement important pour le Kurdistan de Turquie. D'autant plus que c'était des organisations de la même tendance politique qui étaient majoritaires.
Mais est-ce que sur l'avenir, vous voyez qu'il y a une coopération entre les différents mouvements kurdes peut se mettre en place ou on peut s'accélérer peut-être ?
À court terme, on est plutôt dans des relations très très conflictuelles qui vont même plutôt dans le mauvais sens, on pourrait dire. C'est-à-dire que parfois, entre le PDK et le PKK au Sinjar, on est proche d'affrontements directs.
Il y a parfois des affrontements, d'ailleurs.
Il y a parfois des affrontements, oui. Donc, je ne crois pas à un rapprochement à court terme. En même temps, le PKK, au moment, par exemple, de l'avancée de l'État islamique en 2014, était venu défendre le front auprès des Peshmerga du PDK irakien. Du coup, on peut pas exclure effectivement à terme un certain rapprochement, sans doute pragmatique, parce qu'il y a quand même des divergences idéologiques qui sont fondamentales entre les deux parties.
Merci Olivier Grosjean, maître de conférence en sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Merci beaucoup.
Et je renvoie à votre livre, La révolution kurde, le PKK et la fabrique d'une utopie. C'est publié aux éditions La Découverte. Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bucianti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Oui, bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, la situation au Liban inquiète la presse panarabe.
Oui, une presse qui souligne l'appel de l'Arabie, des Émirats et du Koweït à leurs citoyens de quitter le Liban. Alors pourquoi ? C'est la question que se posent de nombreux éditorialistes en y apportant des réponses différentes. Pour les journaux du Golfe, c'est à cause de l'instabilité, une instabilité que fait régner au Liban le Hezbollah téléguidé par l'Iran. Pas du tout, répondent les éditorialistes des journaux proches du Qatar et du Hezbollah. Selon eux, l'Arabie, et notamment le prince héritier Mohammed Ben Salman, complote contre le Liban et préparait même une opération militaire pour certains. Même divergence sur le sort du premier ministre démissionnaire Rafiq al-Hariri. Il est pratiquement sous tutelle en Arabie pour les uns, il cherche à libérer son pays du mainmise iranienne pour les autres. S'il y a une chose qui ressort de tous ces éditoriaux, c'est que le Liban reste le terrain de confrontation des puissances régionales et internationales.
Et justement, en Israël, Michel Paul, la presse se penche aussi sur les relations entre le Liban et l'Arabie Saoudite.
Oui, la presse se pose ici des questions sur l'avenir du premier ministre libanais démissionnaire. On nettoie les écuries à Riyad, écrit un commentateur. Un autre chroniqueur parle, lui, du chaos libanais. Tension entre le Liban et l'Arabie Saoudite. Pour Haaretz, il est important, quoi qu'il arrive, qu'Israël ne se laisse pas entraîner dans une nouvelle guerre sur sa frontière nord.
Mais le sujet principal, Michel, dans la presse israélienne, c'est bien le fait que le chef du gouvernement israélien ait été interrogé par la police.
Oui, absolument, cela fait la une de toute la presse de ce week-end. Le Premier ministre interrogé sur plusieurs affaires de malversation, abus de pouvoir et autres. Eric, ce n'est pas la première, mais la cinquième fois que les enquêteurs entendent Benjamin Netanyahou sur deux affaires. Il s'agit de soupçons de pot de vin et d'autres faveurs reçu de la part d'hommes d'affaires dont il aurait fait avancer les intérêts. Mais les journaux le soulignent, cette fois l'enquête ne portait pas sur l'affaire la plus grave, une affaire de corruption dans l'achat de sous-marins allemands. Plusieurs collaborateurs proches du Premier ministre ont, eux, été entendus là-dessus, et la presse rappelle que plusieurs députés du parti de M. Netanyahou essaient de faire adopter par le Parlement une loi qui lui donnerait l'immunité pénale pendant l'exercice de ses fonctions. Lorsqu'il y a volonté d'enquêter, il n'y a pas d'obstacle, fait remarquer un éditorialiste du quotidien Mariv. L'entourage s'écroule, titre de son côté Yediot Aharonot. Et pour Haaretz, ce qui pousse Bibi dans tous les domaines, eh bien, ce sont les enquêtes. Et le journal renifle une odeur d'élection pour le printemps prochain.
À suivre. Alexandre, plusieurs éditorialistes évoquent l'inauguration du musée du Louvre à Abu Dhabi.
Oui, une inauguration qui a évidemment occupé une large place dans les journaux émiriens qui voient le symbole des Lumières face au courant obscurantiste dans la région. Un éditorialiste du journal Panarabe Sharqlaoussa souligne que sans ouverture et tolérance, il n'y a pas de commerce et de développement. Une ouverture et une tolérance qui, selon lui, régnaient du temps où le commerce entre l'Asie et l'Europe passait par un monde arabo-musulman qui était au summum de son développement culturel, scientifique et économique. Un journal souligne que ce musée participera à la croissance du secteur touristique dans l'économie de l'émirat d'Abu Dhabi, qui jusque-là était dépendant du pétrole. Rappelant que le tourisme dans l'émirat voisin de Dubaï a atteint 15 millions de visiteurs en 2016, 5 millions de plus que l'Égypte avec ses pyramides et sa mer Rouge.
La femme égyptienne entre éloges officiels et outrages de la rue, c'est un éditorial du journal Al-Watan, Alexandre.
Oui, pour Khaled Montasser, la condition de la femme restera inchangée malgré les efforts du pouvoir avec 3 femmes ministres et 89 députés. Inchangé tant que la rue sera dominée par la pensée conservatrice et salafiste, estime l'éditorialiste. Il rappelle la sortie télévisée de cet avocat qui a estimé qu'il était du devoir des hommes, des vrais, de harceler les femmes aux vêtements indécents. Tant que la femme restera un objet de décoration, de plaisir et de procréation du fait de l'immobilisme religieux, la cause féminine ne progressera pas, conclut Khaled Montasser.
Michel, il est aussi beaucoup question de harcèlement sexuel dans la presse israélienne.
Depuis la campagne hashtag moi aussi, on ne parle que de ça ici, le harcèlement et les agressions sexuelles. Et ce sont particulièrement des personnalités des médias qui sont visées. Le directeur d'une chaîne de télé et aussi un présentateur vedette de la radio ont été contraints de se retirer de leurs fonctions. Toutes les premières pages des journaux montrent les photos des victimes et de leurs agresseurs. Et dans la plupart des cas, les faits remontent à plus de 20 ans. La presse israélienne se penche également sur une société israélienne, Black Cube, composée d'anciens agents du Mossad, le service secret israélien. Ils ont été pressentis par Harvey Weinstein, et notamment une jeune femme du nom de Stella Penn, qui aurait rencontré plusieurs femmes victimes de l'impresario hollywoodien pour lui soutirer des informations.
Merci Michel, merci Alexandre. Et à propos de l'inauguration en grande pompe du Louvre à Abu Dhabi, cette semaine que nous évoquions à l'instant, si vous voulez en savoir plus sur le rôle des musées dans la politique des pays arabes, je vous suggère de réécouter notre émission du 4 mars dernier sur notre site www.rfi.fr et notre entretien avec Alexandre Kazerouni, auteur du livre « Le miroir des chairs ». Orient Hebdo, une émission réalisée par Mathias Golchani que vous pouvez retrouver aussi sur notre page Facebook. À samedi prochain, passez une bonne semaine à l'écoute de la Radio Mondiale. Tout de suite, un nouveau journal d'information.